enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Amen.
On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Que chaque personne ici puisse en tirer une instruction pour sa vie. Merci parce que au travers de ta parole, tu veux nous aider à avancer avec toi. Et c'est aussi notre désir. À toi soit la louange. À toi soit la gloire. Amen.
Amen.
Ce matin, nous allons parler de désert. Et on va voir ensemble trois sortes de déserts. Vous savez, le désert, c'est quelque chose qui fait partie de la vie des hommes. À un certain niveau ou à un certain autre. À certains moments ou à certains autres.
Et
on va voir qu'il y a au moins trois sortes de déserts. Le premier désert dont nous allons parler,
il
s'agit du désert des mentalités religieuses. On va parler des personnes qui n'ont pas vraiment compris ce qu'ils sont en
Christ,
qui sont dans cette mentalité, je ne suis rien et je n'ai besoin de rien. Et généralement, quand on va dans ce sens-là, ça reviendrait à dire, si je ne suis rien, Jésus est mort pour rien. Et si je n'ai besoin de rien, alors pourquoi est-ce que Jésus nous a donné un héritage en Jésus, en lui-même? Donc nous allons parler de cette première mentalité, ce premier désert que certains chrétiens traversent.
Et
malheureusement dans lequel ils vivent tout au long de leur vie. Nous allons parler ensuite d'un deuxième désert. Un désert par lequel Jésus lui-même est passé avant d'entrer dans son ministère. Un désert également dans lequel le peuple d'Israël est passé avant d'entrer dans la terre promise. Désert, période de transition, temps de transformation, de préparation, de test pour arriver à quelque chose de meilleur. Et ensuite, on parlera d'un troisième désert. Désert dans lequel certaines personnes se jettent eux-mêmes par leur désobéissance, par leur endurcissement, leur désir de ne pas changer quand Dieu leur montre certaines choses dans leur vie, qui restent dans le péché et dans des habitudes de péché. Et comme Dieu est bon, il met ces personnes dans le désert afin de parler à leur cœur et de les amener à changer. Et ça, c'était entre autres le cas de Nebuchadnezzar.
Amen.
Mais on va commencer par le commencement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle? Parce que je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Amen.
Amen.
Sachez une chose, c'est que de toute manière, Dieu est bon.
Il
a les choses les meilleures pour ses enfants.
Il a fait ce que nous visons.
Mais nous devons y rentrer selon son cœur, selon sa volonté, selon sa parole. Parce que c'est lui qui est Dieu, qui sait toutes choses. C'est lui qui est roi. C'est lui qui décide. Et c'est nous qui acceptons de suivre ou de ne pas suivre. Amen.
Amen.
On va commencer donc par la mentalité religieuse et voir un peu de quoi il s'agit. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui paralyse beaucoup de personnes, mais dans lequel il y a un remède vraiment simple. On va lire ensemble dans Romains, chapitre 4, et le verset 16. Romains chapitre 4, verset 16.
Abaroma kane, chumina gatanda tu.
C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. On va s'arrêter là.
Turasoma kuri 16 ngo nico gituma ibyo byavuze gukwizera ngo bube iby'ubuntu kugira ngo kuruvyaro rwa Aburahamu rwose ibyasezeranywe bize byame bihamye.
Ce que nous pensons, c'est une chose. Ce que Dieu pense, ce que Dieu fait, ce que Dieu dit et ce que Dieu a fait, est parfois différent. La Bible nous dit que nous sommes héritiers. Et nous sommes héritiers en Christ. Amen.
Amen.
Lorsque Jésus est mort, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Jésus, le Fils de Dieu, je dis bien le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, d'abord dans un premier temps a quitté le ciel pour revêtir un corps humain afin de pouvoir entrer dans ce corps humain. Il a dû laisser certaines choses dans le ciel, son omniprésence par exemple, parce que quand on est dans un corps, on n'est pas omniprésent, n'est-ce pas? Si vous êtes assis ici en ce moment, vous n'êtes pas en même temps chez vous ou ailleurs. Et Jésus a laissé ses attributs divins pour revêtir ce corps humain. Il a laissé son omniprésence, son omniscience également, parce qu'il a déclaré: le Père seul sait. Et certaines choses que les disciples lui ont posées comme question, quand à la fin des temps par exemple, Jésus a dit: je ne le sais pas. Le Père seul sait. Donc, quand Jésus est venu sur cette terre, il a laissé sa connaissance, sa toute connaissance, son omniscience. Il faisait ce que le Père lui disait, ce que le Père lui montrait, et ce qu'il savait, c'est ce que le Saint-Esprit lui révélait. Il a également laissé sa toute-puissance. Jésus a déclaré: je ne peux rien faire de moi-même. Donc si quelqu'un ne peut rien faire de lui-même, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. C'est qu'il n'est pas tout-puissant. Amen. Donc Jésus a laissé toutes ces choses pour revêtir un corps humain, parce que Dieu avait un plan, et ce plan était de racheter l'humanité. Jésus a marché pendant 3 ans et demi dans son ministère en parlant du Père, en enseignant, guérissant les malades, chassant les démons et ressuscitant les morts. Ensuite il est mort sur la croix injustement, parce que Jésus n'a jamais rien fait de mal. Il n'a jamais rien fait qui n'ait pu susciter la moindre réflexion, le moindre reproche. Vous savez, vous et moi, quand nous faisons certaines choses, même quand on s'applique, quand on travaille, quand on essaye de faire une chose quelconque, parfois une fois qu'on a achevé, on se dit: là vraiment c'était pas parfait, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, ou je n'ai pas dit les choses exactement comme j'aurais dû le dire, parce que nous sommes imparfaits. Amen. Mais
Amen.
Jésus parfait était parfait, et parfait en toutes choses. Il était parfait dans ses pensées, parfait dans ses paroles, parfait dans ses actions, et en aucune manière il ne pouvait être condamné justement d'une façon méritée. Amen. Pourquoi Jésus a-t-il été condamné? Pour prendre ta place, pour prendre ma place. Voilà pourquoi Jésus a été condamné. Parce que nous tous les hommes, sommes pécheurs, tous sans aucune exception. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Ça, c'est le salaire du péché pour tous les hommes. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grand péché, de petit péché. Il y a juste le péché qui est sanctionné par la mort.
Qu'est-ce
que la mort? C'est une séparation. Les hommes pécheurs sont séparés de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas vivre avec Dieu, ni en relation avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Puis après cela, vient la mort physique, puisque tous, nous tous qui sommes nés sur cette terre, nous la quitterons un jour. Amen. Nous tous, sans aucune exception. Certains d'entre vous, vous avez de nombreuses années devant vous. Mais même si vous avez encore 30 ou 40 ans, ou 50, ou même plus à vivre sur cette terre, sachez bien que vous la quitterez. Et certaines personnes n'ont que peu d'années encore à vivre. Je
ne
suis pas en train d'essayer de semer l'angoisse ou le trouble dans votre cœur. Mais on parle de choses qui sont réelles, auxquelles il faut penser de temps à autre. Amen. Et la troisième sorte de mort, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est séparé de Dieu à cause de ses péchés, qui meurt physiquement, il y a la mort éternelle, une séparation éternelle avec Dieu. Hébreux 9, 27 nous dit qu'après la mort, vient le jugement. Il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Et après la mort, vient le jugement. Amen. Amen.
Amen.
Donc Jésus a pris notre place. Il a pris notre châtiment. Il a pris notre condamnation. Il est mort à cause de nous, à cause de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Et s'il est mort pour nous, il est aussi ressuscité pour nous, pour que nous puissions vivre dans une autre dimension et dans une autre qualité de vie. Beaucoup de personnes ne voient que le fait de aller au ciel. Je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. Je continue à vivre ou à survivre dans cette vie. À chaque jour suffit sa peine. Une souffrance après une autre. Une déception après une autre. Un problème après un autre. Mais dans toutes ces choses, je sais que de toute façon, un jour j'irai au ciel. Et ça, c'est le problème et la mentalité de ceux qui n'ont pas encore compris que nous avons un héritage. Nous sommes héritiers. Comme le dit ce passage que nous venons de lire, nous sommes héritiers. Les héritiers le sont par la foi. Amen. Par la foi. Par la foi en quoi? Par la foi en qui? Non pas dans nos parents naturels, non pas dans nos capacités naturelles, mais par la foi dans ce que Jésus a accompli. Parce que je vous rappelle que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Tu étais mort par tes péchés, par tes offenses, mais Dieu le Père, le jour où tu reçois Christ, il te ressuscite. Les choses anciennes sont passées. Dites avec moi: les choses anciennes sont passées. Allez-y. Ceux qui peuvent. Vas-y. Les choses anciennes sont passées. Donc si Dieu dit que c'est passé, ça veut dire que c'est passé. Gloire à Dieu, nous n'avons pas un passé qui nous colle à la peau. Ce n'est pas notre passé qui conditionne notre présent et qui détermine notre avenir quand nous savons que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants, les enfants du Père. Nous sommes frères et sœurs de Jésus. Cela ne vient pas de nous. La seule responsabilité que tu as dans ces choses, c'est d'avoir cru. Parce que c'est par la foi, que nous héritons des promesses. Et il y a une promesse, de vie. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait avec juste un tout petit peu quand même, faut pas exagérer. Non. Je vois que vous connaissez votre Bible. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons avec abondance. Amen.
Amen.
Donc tout ce qui n'est pas abondance est quelque chose que nous n'avons pas besoin d'accepter. Et ça n'a rien à voir avec la convoitise. Ça n'a rien à voir avec le désir de s'enrichir, d'avoir de grandes maisons, des voitures, ou je ne sais quoi d'autre. Ce n'est pas cela la vie abondante. C'est pas cela. Les richesses financières, ce n'est pas la vie abondante. Parce que si la vie abondante était dans les richesses financières, tous les gens riches seraient heureux. Et ce n'est pas le cas. Et c'est loin d'être le cas. Vous connaissez comme moi telle personne riche, très riche, fort riche, qui se suicide ou qui meurt misérablement. Amen. L'argent ne fait pas le bonheur. La vie abondante n'est pas dans l'argent, mais elle est en
Christ.
Et en Christ, nous avons une provision.
Amen.
Amen. Dieu nous aime. Il a fait de nous les héritiers. Et quand on parle d'héritage, on parle de quelque chose de légal. L'héritage n'a rien à voir avec le hasard. Si tes parents sont fortunés et qu'ils décèdent, ce n'est pas par hasard que tu vas hériter d'eux. Je pense que ça, c'est compréhensible. Imaginez qu'une personne fort riche de cette terre décède et que toi qui n'as aucun lien de parenté avec cette personne, tu penses que tu pourrais aller réclamer un héritage. Tout le monde te dirait, mais t'es qui toi? On te connaît pas. Qu'est-ce que tu viens réclamer? Tu n'es pas un fils. Tu n'es pas une fille. Il n'y a pas d'héritage pour toi. Amen. Ça, c'est quelque chose de compréhensible. L'héritage que nous recevons dans le domaine du naturel vient de nos parents ou de personnes qui nous ont légué leurs biens. Mais l'héritage ne se perçoit que sur une base légale. Imaginez que quelqu'un soit héritier. Et qu'au décès de son parent, on recherche cette personne, qu'on l'appelle, on lui dise, voilà, telle parenté est décédée, et voici ton héritage. Imaginez un instant que cette personne dise, non. Je ne peux pas accepter. Je
ne
mérite pas. Vraiment, prenez quelqu'un
d'autre.
Personne ne pourrait faire ça.
Amen.
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 Mais bien au contraire,
tu
le reçois. Parce que c'est à toi. C'est juste, c'est normal et c'est légal. Alors si nous sommes capables de recevoir aussi facilement des choses qui nous sont dues dans le domaine naturel, amen.
Amen.
Alors que vous savez comme moi que parfois autour des héritages, il y a des histoires très compliquées.
Mais
quand tu sais que tu es dans ton droit,
tu
vas te tenir. Ça, c'est à moi.
Ce
n'est pas à mon cousin, ni à mon oncle,
mais
c'est à moi. Parce que c'est moi qui suis l'enfant. Si tu es capable de prendre une position dans le naturel, tu te dois de prendre une position dans le spirituel, dans le surnaturel. C'est par la foi. Nous sommes héritiers par la foi. La foi en quoi? Dans l'œuvre de Christ. Et dans son sacrifice. C'est lui qui a accompli ces choses pour que nous vivions sur cette terre une vie abondante. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que nous ayons une vie abondante? Abondante. Bien sûr, les finances font partie de l'abondance, mais ce n'est pas le numéro un. Abondante de paix. Abondante de joie. Abondante dans tout ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous ayons une vie abondante? Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est parce qu'il nous aime. Il est notre Père. Et vous qui avez des enfants, si vous êtes de bons parents, vous n'avez qu'une envie, c'est que vos enfants réussissent et qu'ils soient heureux. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu veut que nous ayons une vie abondante, c'est pour que nous soyons un témoignage. Un témoignage pour ce monde. Il doit y avoir une différence visible à l'œil nu entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Entre ceux qui le servent et entre ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu servent le Seigneur et Maître Jésus.
Yes.
Amen. Et il est le rémunérateur. Il est celui qui bénit son peuple, qui bénit ses serviteurs. Et je vous assure que quand nous sommes bénis, c'est pas difficile d'aller témoigner. Et il n'y a même pas beaucoup de choses à dire. Parce que le monde autour de nous voit que notre qualité de vie est différente que la sienne. Et c'est alors qu'il y a cette question qui se lève dans leur cœur. Attention, lui, ce qu'il a. Moi aussi je le veux. La façon dont il est, c'est différent. Moi aussi je veux devenir comme cela. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu veut qu'il y ait une différence entre ce monde qui se perd et son peuple. Amen.
Amen.
Amen. Pourquoi est-ce que nous avons un héritage? Parce que Christ est mort.
Amen.
Et la mentalité religieuse, c'est de se dire, je n'ai pas vraiment besoin de grand chose. Je me rappelle quand nous sommes nés de nouveau, nous vivions en France à cette époque-là, et nous étions vraiment un petit peu contaminés par cette mentalité. Oh, je n'ai pas besoin de voiture. Dans le ciel, il n'y a pas de voiture. Donc finalement, je n'en ai pas besoin. Et puis tant que je suis sur cette terre, comme je n'y suis pas pour longtemps, donc c'est pas grave. Et c'est comme ça que pendant des années, nous avons fait de nombreux kilomètres à pied. Mieux vaut avoir une voiture que de marcher à pied. Qui est d'accord avec ça? Amen. Soyez bénis. Que chacun un jour puisse recevoir la voiture dont il a besoin.
Amen.
Dont il a besoin. Pas une voiture pour frimer. Pas une voiture pour montrer, oh, je suis à quelqu'un d'important. Mais la voiture dont tu as besoin pour te déplacer rapidement et sans te fatiguer. Parce que quand on est en train de marcher pendant des kilomètres, on n'est pas en train de faire autre chose. Mais on marche. Amen. Donc nous avions cette mentalité. Oh, un chrétien n'a pas besoin de tellement de choses. On
ne
doit pas s'attacher aux choses de cette terre. Et ça c'est vrai, on ne doit pas s'attacher aux choses de cette terre. Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Comme je vous le disais tout à l'heure. Et tout ce qu'on a, ça va rester là.
Amen.
Ça va rester là. D'autres en profiteront. Et si tu n'as rien, Il n'y a rien qui restera de toute manière. Mais quoi que nous ayons, ça restera là. C'est pour ça que nous ne devons pas nous attacher aux choses de cette terre. Mais nous attacher au Seigneur. Mais en attendant, comme nous sommes sur cette terre, les choses de cette terre, nous devons les voir comme un instrument. Comme un instrument, quelque chose qui nous facilite la vie. Amen. Quand on peut se déplacer facilement, ça rend notre vie plus facile. Tu peux vivre dans une maison où il y a des trous dans le toit et l'eau, quand il pleut, ça coule dans la maison. Bon, oui, c'est vrai, j'ai une maison. Mais quelle maison? Et quand ça coule, ça détériore toutes tes affaires. N'est-ce pas? Autant avoir une bonne maison qu'une maison avec des trous dans le toit. Amen. Mieux vaut avoir de bons vêtements que des vêtements déchirés. Même si les vêtements, vous savez comme moi que ça ne dure jamais longtemps. Amen. Donc ces choses de cette terre, elles sont à notre disposition. Ne pas s'y attacher, c'est une chose. Mais avoir cette attitude. Oh non, je n'en ai pas besoin. Parce que tu as peur. Tu as peur que ces choses prennent la place de Dieu dans ta vie. Ou alors parce que tu te crois tellement supérieur aux autres que tu te dis, moi je vis en dehors de ces choses. Il y a toujours des extrêmes dans nos façons de penser. Et ce qui est important, c'est de penser selon Dieu et selon la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 11, Jean chapitre 10, verset 11, c'est Jésus qui parle et il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger. Il est bon. Dis avec moi, Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour toi, dis-le à quelqu'un. Jésus est bon pour toi.
Jésus est bon pour toi.
Amen. Amen. Vous savez, c'est dans l'église qu'on on doit dire de bonnes choses. Parce que quand on sort de là, on en entend des durs. Amen. Au moins que dans l'église, si on entend de bonnes. Parce que comme ici nous sommes nombreux, alors on n'a pas l'occasion de parler avec tout le monde. N'est-ce pas? Quand on vous dit par exemple de vous saluer les uns les autres, c'est parce qu'on ne veut en aucun cas que quelqu'un rentre ici, il ne connaît pas, il est là tout seul dans son coin. Il chante avec les autres. Il écoute la parole avec les autres. Et après, quand il sort d'ici, il est toujours aussi seul. Quand on se salue les uns les autres, ce n'est pas une coutume.
Ce
n'est pas un rite. C'est parce qu'on veut que tout le monde soit accueilli. Et quand on dit à celui qui est à côté de toi, Jésus t'aime, Jésus est bon pour toi, c'est parce qu'on veut être certain que chaque personne peut l'entendre de vive voix. Amen. Parce que c'est vrai que l'église n'est pas un endroit où on tient des conversations. C'est un endroit où on loue, on adore Dieu et on partage la parole. Et que personne ne puisse dire aujourd'hui personne ne m'a parlé. Parce que moi je suis témoin. Quelqu'un t'a dit Jésus est bon pour toi. Amen. Il est bon pour nous. Jésus est le bon berger. Et il donne sa vie pour que nous puissions recevoir sa vie. Quand on va au psaume 23, on voit de quelle façon le bon berger prend soin de ses brebis. Amen.
Amen.
Donc, pas une question de mentalité du désert. Je ne suis rien. Je ne vaux rien. Et je n'ai besoin de rien. Parce que si je ne suis rien, si je ne vaux rien, et si je n'ai besoin de rien, ça veut dire que Dieu s'est trompé. Amen. Ça, Amen. Si je dis cela, ça veut dire, ben, Seigneur, tu t'es trompé. Tu as envoyé Jésus, il est mort pour rien. Puisque je ne suis rien. Jésus est mort pour rien. Et comme je ne vaux rien, alors ça veut dire que finalement Jésus n'a même aucune valeur. C'est ça que cela veut dire. Vous savez, on doit faire attention. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des créatures de Dieu, créées à son image, à sa ressemblance. Et nous avons à ses yeux une valeur immense. Parce que généralement, quand on achète quelque chose, en principe, on doit payer cette chose à la valeur que cette chose a réellement. Ça, c'est les choses normales. Je sais que c'est difficile de se repérer parce que quand on regarde autour de nous, les prix changent tous les jours. Mais en règle générale, si par exemple tu achètes une baguette de pain 500 francs, ça veut dire que 500 francs, c'est la valeur de la baguette de pain. N'est-ce pas? En principe. Je sais que parfois il y a de l'exagération et qu'on paye des choses à un prix que ces choses ne valent pas de toute manière. Mais la logique veut que quand j'achète quelque chose, le prix que je paye cette chose, c'est la valeur de cette chose. Dieu a payé pour ta vie. Il t'a racheté. Dieu voit la valeur de ta vie égale à la valeur de la vie de Jésus. Dis avec moi, la valeur de ma vie aux yeux de Dieu est égale à la valeur de la vie de Jésus. Dites-le encore. Maintenant, ce que pense ton frère ou ta sœur ou ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, tes voisins, ceux qui s'assoient avec toi à l'école, ou tes collègues de travail, ça c'est ce que les gens pensent. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu pense. La valeur de ta vie à ses yeux est égale à la valeur de la vie de Jésus. Et quand on dit égal, c'est égal. C'est pas à peu près. C'est égal.
Et quand je pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi.
Alors mon cœur
dit la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur le Seigneur pour la façon dont il nous voit. Amen.
et apprends une chose. C'est à te voir toi-même. Comme Dieu te voit. Vois-toi au travers des yeux de Dieu. Ne te vois plus au travers du regard des autres. Ne te vois plus au travers du regard des circonstances. De la société dans laquelle tu évolues. Ne te vois plus au travers de ton éducation ou de tes finances, mais vois-toi comme Dieu te voit, parce que ça c'est le premier pas pour sortir de la mentalité du désert. C'est le premier pas pour sortir de la mentalité religieuse. Tu es important. Je sais que depuis que nous sommes nés, tout le monde nous a dit qu'on valait rien. N'est-ce pas, c'est vrai, je vous dis la vérité. Tout le monde nous a dit qu'on ne vaut rien, qu'on est des bons à rien, et qu'on n'arrivera jamais à rien, et qu'on n'ira nulle part. On nous a pointé du doigt, on nous a dit en long, en large et en travers, tous nos défauts, tous nos problèmes, tous nos mauvais traits de caractère. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je vais te changer. Parce que je te vois comme je vois Jésus. Et de la même façon, acclamez le Seigneur. De la même façon que Jésus est parfait. Lui, amener cette perfection dans ta vie. Vous savez, Dieu nous aime vraiment. Et notre meilleure façon de l'honorer, c'est de reconnaître qui il est. Et de reconnaître ce qu'il a fait. Il est notre berger. Sortons de la mentalité du désert et sachons une chose. Ouvrez vos Bibles au psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. D'abord, ça commence par Cantique de David. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Wansize amavuta mu mutwe igikombe canje kirasesekaye nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyo nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyomako imisi yose y'ukubaho kwanje nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose.
Amen.
Amen.
Nous sommes héritiers. Et on va lire ensemble, je pense que c'est dans Hébreux chapitre 8 verset 6. Restez avec le psaume 23 parce qu'on n'a pas fini. Nous sommes héritiers. Et on va lire de quoi? Mais maintenant, donc c'est Hébreux chapitre 8 verset
6.
On parle de Jésus. Mais maintenant, et quand on dit maintenant, c'est à cause des choses qu'il a accomplies, des choses qu'il a souffertes. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses.
Riruta ivyabo kuko ryashizweho ni vyasezeranyo biruta ivyabo.
Nous sommes héritiers d'une alliance. Je sais que pour les hommes aujourd'hui, dans le siècle dans lequel nous vivons, alliance, ça ne veut pas dire grand-chose. N'est-ce pas? Alliance, ça ne veut pas dire grand-chose. Alliance ou contrat, si vous préférez. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui dans ce monde. Tu peux avoir un contrat. On te fout dehors. Ou tu peux donner un contrat à quelqu'un. Tu es lié par ce contrat. Mais tu te débarrasses de cette personne sans raison valable. Juste parce que ça t'arrange. Tu es lié dans une alliance, comme par exemple le mariage. Et vous savez, comme moi, la maladie de ce siècle, c'est le divorce. C'est vraiment une maladie. Moi, je connais des personnes. Je ne les connais pas personnellement, mais j'ai entendu cet exemple. Quand on faisait nos études aux États-Unis, j'entendais des histoires de gens qui divorcent parce que la femme a demandé au mari de descendre la poubelle et qu'il n'a pas voulu le faire. Parce que tu n'as pas voulu descendre la poubelle, alors c'est fini. On divorce. Ou alors le mari qui divorce parce qu'il voulait aller au restaurant et que sa femme lui dit, écoute, vraiment, je suis fatiguée. Ok, puisque tu ne veux pas venir avec moi au restaurant. On divorce, c'est terminé. Pour des choses qui n'ont aucun sens, aucune valeur. Je ne dis pas que parfois les divorces ne sont pas basés sur de terribles réalités qui ont une raison en soi. Je parle seulement là de l'engagement léger. On s'engage et on se désengage. On donne sa parole et on la reprend. Et il y a des personnes qui reprennent leur parole même avant de l'avoir donnée. Yo. Alors quand on vit dans ce style de vie, c'est difficile de croire dans un Dieu d'alliance. Parce que tu as cette vision, j'ai une alliance avec Dieu, mais à la première occasion, il va me laisser tomber. Comme moi, je laisse tomber tout le monde à la première occasion. Mais Dieu n'est pas un homme. Amen. Il est Dieu. Il est celui qui ne ment pas et qui ne se repent pas. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Dieu ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas de son alliance. Parce que depuis 2000 ans que Jésus est mort et ressuscité, je vous promets qu'il y a des milliards de fois où Dieu aurait pu dire,
oh,
ces hommes alors, qu'est-ce qui m'a pris de leur donner Jésus? Ce sont des bons à rien. Ils ne veulent même pas de moi. Ce sont juste des profiteurs. Des gens qui exagèrent. Et en plus qui ne comprennent rien. Et qui font toujours n'importe quoi. Heureusement que je ne suis pas Dieu. Parce que je vous promets que je leur ai pensé des milliards de fois. Pas moi seulement. Moi, j'ose le dire. Mais vous aussi, vous l'auriez pensé. Même si vous n'osez pas le dire. Amen. Il est un Dieu d'alliance. Lui-même, il s'est mis sous son alliance. Il s'est mis sous ses promesses. Il s'est mis sous son engagement. Le Tout-Puissant qui est plus grand que tout. Il s'est mis sous une alliance qui ne peut et qui ne brisera jamais. Nous avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Promesse. Si David, on revient dans le psaume 23, si David, qui était berger, avait cette compréhension, le berger, Jésus, le bon berger, alors que il n'avait pas la révélation que vous et moi nous avons. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au berger? Parce que Jésus, l'Éternel,
est
mon berger. Je ne manquerai de rien. Et là encore, on ne parle pas seulement des choses matérielles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont nécessaires. Mais nous ne devons pas en devenir esclaves. Parce que Jésus est mon berger. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai pas de joie. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui prend soin de moi. Qui pourvoit à tous mes besoins. Mes besoins spirituels. Mes besoins affectifs, émotionnels. Et aussi mes besoins physiques. Ça, c'est la promesse que nous avons dans la parole de Dieu. Pourtant, beaucoup de personnes vivent dans le désert où ils manquent de tout. N'est-ce pas? Parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils ne voient pas que Jésus est leur berger. Dieu ne veut pas que tu manques. Le manque est dans le diable. Mais en Dieu, il y a la provision. Il est la provision. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le repos. Qu'est-ce que le contraire du repos? Le contraire du repos, c'est l'agitation et le stress. Et qu'est-ce que cela produit? La fatigue. Amen.
Amen.
Dieu est un Dieu de repos. Il veut que nous vivions dans la paix. Dans le repos. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous nourrit. Amen.
Amen.
Amen. Ça, c'est ce que Jésus veut faire. Lisons ensemble Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Et le verset 19. Philippiens chapitre 4. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.
C'est
écrit dans l'Ancien Testament. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Amen.
Amen.
Quand on vit avec une mentalité du désert, on vit dans le manque, que ce soit d'une certaine manière ou d'une autre manière. Amen.
Amen.
Comme je vous le disais, ce n'est pas forcément toujours des histoires financières.
Amen.
Autre chose, il est aussi notre souverain sacrificateur.
Amen.
Amen. Et ne pensez pas que c'est juste un joli terme
que
l'on trouve dans la Bible ou dans certaines chansons. Lisons ensemble Hébreux chapitre 10 et le verset 21. Jésus est notre souverain sacrificateur. C'est une aussi des raisons pour lesquelles nous n'avons pas à vivre dans cette mentalité du désert. Hébreux chapitre 10 et verset 21. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un souverain sacrificateur? Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il lui a parlé et lui a dit « Tu vas faire sortir mon peuple de l'Égypte. » L'Égypte, c'était l'endroit de la servitude. C'était le pays de l'esclavage. De l'esclavage et de la souffrance. Et Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. Il lui a donné la loi. Et il a donné tous les rites de la loi. notamment le rite des sacrifices. Parce que avant que Jésus ne vienne, lui qui est le sacrifice parfait, le seul qui efface les péchés, il y avait depuis Moïse jusqu'à la venue de Jésus un rite de sacrifice d'animaux qui ne purifiait pas les péchés, qui ne les effaçait pas, mais qui les couvrait et qui permettait aux hommes de pouvoir s'approcher de Dieu, mais jusqu'à un certain point, parce que les hommes ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint, là où réside la gloire et la présence de Dieu. Seul le souverain sacrificateur, celui qui avait été établi par Dieu pour apporter le sang, le sang du pardon, le sang qui couvrait les péchés du peuple et ses propres péchés d'ailleurs, pour une durée d'une année, lui seul pouvait y rentrer une fois par an avec ce sang. Amen.
Amen.
Ça, c'est l'Ancien Testament.
Mais
Jésus a accompli par son œuvre le sacrifice. Il est le sacrifice et il est le souverain sacrificateur. C'est lui qui a apporté devant le Père le sang du pardon.
Vous
savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'incertitude, qui se sentent continuellement sous une condamnation. Et quand tu sais, oui, je sais que Jésus m'a racheté, mais voilà ce que je suis. Et je suis encore comme ci. Et je suis encore comme ça. Ou j'ai fait cela.
Il
faut comprendre une chose. Jésus est ton souverain sacrificateur. Il n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour présenter devant le Père son sang. Amen. Parce que le sang de Jésus a coulé pour que nous puissions naître de nouveau. Ça, c'est la première chose. Mais le sang de Jésus est toujours dans le ciel, un témoignage, et il est toujours efficace pour ta vie. Quand cela t'arrive de pécher encore, c'est le sang du pardon. Amen. Et quand on se sent sous la condamnation, on a tendance à se refermer. On a tendance à s'endurcir. Non pas s'endurcir de ne plus aimer Dieu, mais de ne plus être libre dans la présence de Dieu, libre de recevoir les choses que Dieu veut manifester dans nos vies. Vous savez, il y a des personnes qui se sentent tellement condamnées, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'elles pensent que Dieu ne les aime plus, que c'est fini, ils ne peuvent plus revenir, ils ne méritent rien, ils ne méritent plus rien, c'est terminé. Mais c'est faux. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Nous avons un souverain sacrificateur. Et rappelle-toi une chose, le sang de Jésus dans le ciel, quand tu invoques son pardon, même quand tu es déjà né de nouveau et que tu as péché, le sang de Jésus vient et efface toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de vivre dans une mentalité de désert. Je ne mérite plus rien. C'est fini pour moi. Bon, je suis sauvé, oui, c'est sûr, parce que le salut, on ne le perd pas. Mais je mérite que de vivre une vie misérable tous les jours de ma vie à cause de ce que je suis ou à cause de ce que j'ai fait. Ça, c'est une autre partie que le diable exploite pour garder les enfants de Dieu qui sont déjà sauvés dans un état de misère, dans un état de malaise, dans un état d'oppression, dans un état de dépression que l'on peut aussi appeler facilement le désert.
Amen.
Amen. Dieu n'est pas le Dieu du désert. Il est le Dieu des promesses, de la terre promise. Il est le Dieu de sa parole. Il est le Dieu de son alliance.
Amen.
Et la dernière partie, c'est que Jésus est notre avocat.
Amen. Amen.
Nous en avons vraiment besoin. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Jean 1, verset 1. On va commencer à lire un tout petit peu avant. On va lire à partir de 1 Jean chapitre 1, verset 8. Et quand on lit cet épître de Jean, on doit comprendre que cet épître s'adresse aux chrétiens. Amen. Vous savez, il est important quand nous lisons la parole de Dieu de savoir à qui précisément elle s'adresse. Parce que dans sa parole, Dieu parle à différentes catégories de personnes. Amen. Il parle à ceux qui sont rebelles, qui sont endurcis, qui ne veulent pas, non pas parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ne veulent pas. Et cela, il les appelle race de vipères, incrédules et perverses. Ça, c'est une catégorie de personnes. Dieu parle aussi au monde. Amen. À ceux qui vivent dans leur péché. Parle au monde. Mais Dieu aussi parle au travers de sa parole à ses enfants. Et quand on lit la première épître de Jean, Dieu parle à ses enfants. Amen. Il dit, dans le cas du chrétien qui a péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, entre parenthèses, c'est pas écrit là, mais je le rajoute, alors que nous avons péché. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Bana banje bato ndabandikiye ibyo kugira ngo ntimukore icaha kandi nihagire umuntu akore icaha dufise umwitsa kuri data wa twese niwe Yesu Kristo umugororotsi kandi uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu mugabo si ibyacu twenyene ariko n'ivy'abari mu isi bose.
Amen.
Amen.
Non seulement Jésus est notre souverain sacrificateur,
mais
il est encore notre avocat. Donc, pour ne pas vivre dans des situations désertiques, arides, terribles, puisque à chaque fois que nous péchons et que nous demeurons, sans reconnaître nos péchés,
vous
savez, il faut savoir reconnaître. Là, j'ai tort. Là, je n'ai pas tort. Là, j'ai mal fait. Là, je n'ai pas mal fait.
Il
faut savoir être honnête avec soi-même. Et arrêter de dire, oui, c'est vrai, je l'ai fait. Mais
ce
n'est pas de ma faute. Si tu l'as fait, c'est ta faute. Amen. Quoi que nous fassions, c'est de notre faute. Même si parfois autour de nous, il y a des circonstances qui font que, ou des pressions qui viennent sur notre vie, qui nous poussent dans une mauvaise direction. Je connais un prédicateur qui a dit une chose que j'ai vraiment appréciée. Nous ne tombons pas dans le péché. Nous marchons dans le péché. Quand ça arrive. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Celui qui dit ce n'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Il fait comme Adam. Vous savez, c'est pas nouveau ce genre de comportement. Adam a dit mais non, c'est pas de ma faute.
Adam a dit
c'est de la tienne, Seigneur.
N'igawe man.
C'est la femme que tu m'as donnée.
Ni wa mugore wa mpa.
Si tu me l'avais pas donnée,
yutamuma.
Ça serait pas arrivé
en gros.
C'est très facile de blâmer les autres, ou même d'aller jusqu'à blâmer Dieu à cause de nos erreurs ou à cause de nos péchés. Et quand tu fais ça, tu es dans le désert. Tu te sens mal. Même si tu te trouves toutes les excuses. Même si, comme le dit Jean, tu te séduis toi-même. Il arrive parfois qu'il y ait des gens qui pêchent. Et c'est connu et reconnu qu'ils le nient. Et en plus qui se mentent à eux-mêmes et qui essayent de se convaincre et qui arrivent même à se convaincre. Non, j'ai jamais fait ça. Tu fais ça. Tu te mets toi seul dans le désert, dans des temps de sécheresse. Vous savez, dans le désert, il n'y a rien qui pousse. Dans le désert, tout est sec. Amen.
Amen.
Tout est brûlant.
Ce n'est
pas un endroit agréable. Mais la Bible dit, celui qui reconnaît, qui dit, oui, c'est vrai. Et c'est ma faute. Et entièrement de ma faute. Amen.
Amen.
Celui qui prend cette position, qui adopte cette attitude, Dieu lui pardonne. C'est direct. C'est direct. Dieu pardonne. Et non seulement il pardonne, mais il oublie. Amen.
Amen.
Comme si ça n'était jamais arrivé. Le problème de notre problème en règle générale, c'est que quand nous avons eu des histoires avec d'autres personnes, même si c'est réglé en apparence, même si on a trouvé un compromis, un terrain d'entente, quelque chose qui fait que bon, les choses se sont arrangées finalement. Il reste toujours plus ou moins à malaise. Même si on ne veut pas le reconnaître, n'est-ce pas? Et à cause de cela, ça nous est difficile parfois de comprendre. Dieu pardonne. Il oublie et il te restaure exactement dans ta position. Amen.
Amen.
On va prier ensemble et les prochaines fois on parlera d'un autre type de désert
et
encore plus tard encore un troisième type de désert, parce qu'il faut bien différencier les choses. Amen. On doit comprendre que le désert, ça peut être une mentalité, mais ça peut être aussi voulu par Dieu pour des raisons particulières. Donc, la question, c'est de comprendre où nous en sommes, ce que nous vivons et pourquoi nous le vivons.
Amen.
Plutôt que de se mettre à prier ou à crier ou à ordonner ou à déclarer des choses qui sont à côté de la parole de Dieu et de là où nous en sommes vraiment. Je sais que beaucoup de personnes vivent dans le désert parce qu'ils n'ont pas compris qui est Dieu, ce qu'il leur a donné et combien il les aime.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.